La mairie vous répond.
La mairie vous répond.
Le nouveau rendez-vous des élus de l'Île-Dieu, chaque premier jeudi tous les deux mois à 18h10 sur Neptune FM.
Premier numéro de la mairie vous répond pour l'année 2016 en ce jeudi 7 janvier. Bonjour Bruno Nourry.
Bonjour.
Vous êtes maire de l'Île-Dieu et conseiller départemental. Bonjour oui. Sylvie Grock.
Bonjour.
Vous êtes première adjointe et chargée de la vie culturelle à la mairie de l'Île-Dieu.
Oui.
Sylvie et Bruno, vous souhaitez exprimer vos vœux pour l'année 2016. On vous écoute.
Oui, bien sûr.
Bruno.
On souhaite à tous une excellente année 2016, qu'elle soit propice pour les uns et les autres. On souhaite tous nos vœux de santé et que cette année apporte à tous pleinement satisfaction. Et puis, nous, on va continuer d'accompagner l'Île-Dieu dans son développement. Donc, on souhaite une bonne réussite à tous les habitants de l'Île-Dieu.
Sylvie.
Eh bien, moi, je voudrais dire que je suis très, très contente que cette année se finisse parce que c'est une année violente et cruelle. Et
l'année 2015
L'année 2015, oui.
On est en 2016, c'est pour ça.
Et de commencer une nouvelle année qui sera pleine d'espoir, de plus douce, plus paisible. Et voilà. Et j'espère que à l'Île-Dieu, comme on a toujours bon moral. Et on a des bénévoles formidables qui agissent dans des associations qui nous distraient toute l'année par leur dynamisme, leur générosité. Donc voilà, je souhaite que ça continue. C'est cette année que 2016 soit vraiment une année d'espoir et très vivante et agréable.
Sylvie, ouais, vous avez dit violente pour l'année 2015. Pourquoi violente ?
Violente parce que je pensais à ce qui s'est passé à Paris ces derniers mois. Enfin, on a commencé l'année le 7 janvier avec un drame. On a continué au mois de novembre et toute l'année a été très stressante. Donc voilà pourquoi je l'ai appelée violente et cruelle.
L'année 2015, on rappelle, oui.
Il y a des tas de familles touchées et nous, on est touchés. Forcément, on est touché.
Bruno, vous vouliez réagir.
Oui, c'est vrai, je rejoins tout à fait ce que dit Sylvie. Par rapport à ce qu'on a vécu en 2015, je crois que l'Île-Dieu, par ses valeurs de solidarité, comme l'a rappelé Sylvie, c'est aussi un bel exemple à montrer à tous. On a besoin de vivre ensemble, de vivre harmonieusement. Et on espère que effectivement 2016 soit un bel exemple et qu'on tourne cette page d'horreur qu'on a vécue en 2015 et c'est important de rappeler ces valeurs de solidarité entre les uns et les autres parce que c'est notre vivre ensemble et ça c'est très important.
Sujet en cours sur l'Île-Dieu, point de vue des transports sur l'Île-Dieu, création d'une régie de transport urbain. Pouvez-vous nous en dire plus, Bruno et Sylvie?
Oui, Bruno. Alors en fait, on était arrivé en fin de contrat avec Keolis. On avait relancé un appel d'offres sur pour Idébus, hein, et puis on était arrivé à des prix qui étaient vraiment très très chers.
Trop cher pour l'Île-Dieu.
Oui, trop cher. Et puis bon, vous savez, on est dans un contexte budgétaire avec des dotations de l'État qui baisse, donc un contexte budgétaire compliqué. Donc on a fait le choix de piloter ce système de transport et des bus en régie, c'est-à-dire c'est la mairie qui va le faire.
C'est un petit peu le même principe que pour le cinéma, c'est bien ça. Pour résumer.
Oui et non, parce que le cinéma est rattaché au budget principal. Là, c'est un budget annexe, mais c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que ce sont les chauffeurs du début seront des employés communaux. On a pu recours à une société extérieure. On le fera en interne, ce qui offrira plus de souplesse, qui coûtera aussi moins cher, mais ce qui complexifie un petit peu notre gestion, parce qu'il faut quand même s'en occuper. Quoi.
Comme auparavant, les bus marcheront toute l'année ? Ils circuleront toute l'année ou pas ?
À part cet hiver, on avait trois saisons.
Vous parlez de l'hiver 2015.
De l'hiver, oui. 2015. Parce que là, c'est vraiment une année d'essai. Et il faut se préparer, c'est quand même assez long. On va créer une régie, donc c'est quand même assez long. Et cet hiver, ce qu'on appelait la petite saison, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril, il n'y aura pas de transport. Il y avait un transport par semaine, il y avait un circuit par semaine, et ce circuit ne pourra pas se faire cette année. Donc on débutera le 2 avril avec la moyenne saison jusqu'au début juillet, et puis après, là, évidemment, la grande saison. Et puis, on reprendra après, jusqu'après les vacances de la Toussaint. Et on veut voir, c'est vraiment une année d'essai, donc on verra après si on peut recommencer, voir s'il faut augmenter des circuits ou non.
Bilan de cette régie, fin 2016.
Bilan de la régie, automne 2016.
Entre l'Île-Dieu et Fromentine, le renouvellement de l'Insula Oya 2 est en cours. Quel type de bateau souhaiteriez-vous, Bruno et Sylvie?
Non, moi, je n'ai pas de type de bateau préconçu. Il y a des études de faisabilité pour voir quel doit être le renouvellement de la flotte, parce que la réflexion était un peu plus large. Hein. On va avoir une réunion courant janvier avec les forces vives de l'Île-Dieu pour voir quel type de bateau on pourrait avoir. Bon, il y a des impacts en termes d'infrastructure à terre, en termes de transport.
Transport de marchandises, ouais, et transport de alors, personnel.
Ouais, alors moi, j'ai pas d'idée préconçue si ça doit être plus grutier, plus roulant. Je pense qu'il faut qu'on se concerte, parce que c'est un choix qui va nous impacter pour les 30 ans qui viennent. Donc, je pense que ce sera un choix collectif, consensuel. Il faut que ça se passe comme ça, parce que, encore une fois, on va vivre 30 ans avec. Moi, j'ai pas la science infuse, je prétends pas savoir quel type de bateau il faut. Je sais juste qu'il faut qu'on soit bien d'accord sur ce bateau. Donc, les choix vont intervenir rapidement.
Fin janvier.
On a une réunion fin janvier. Donc, à la suite de cette réunion, on va pouvoir décider quel type de bateau sera retenu.
Normalement, le dossier est bouclé pour fin 2016. Courant d'année 2016.
Le choix, il va intervenir en début d'année. Maintenant, comme je disais, c'est pas un choix facile à faire, parce que de toute façon, l'Insula tel qu'il avait été conçu à la base, on pourra pas refaire exactement le même bateau. L'Insula, c'est un espèce de couteau suisse où on a des grues, des rampes, il y avait beaucoup de poids à bord. Si on voulait refaire le même bateau avec les normes actuelles, de toute façon, on ne pourrait pas faire exactement le même bateau. Donc, de toute façon, il faudra faire des choix. Et puis, là encore, il faut pouvoir les faire collectivement. Ça, c'est important.
Pour rester dans le transport, on peut faire un petit point sur l'hélicoptère, le tarif, il est, et les évacuations sanitaires. On en a déjà parlé sur cette antenne.
Ouais, on a déjà parlé. Bon, pour faire court, la loi NOTRe qui clarifie les compétences des différentes collectivités locales a supprimé la clause de compétence générale du département, mais aussi celle de la région. Et en fait, le département intervenait sur le tarif insulaire de l'hélico au titre de cette compétence générale. Donc, dorénavant, il ne peut plus le faire. On a questionné l'État. Comme les transports sont dévolus à la région, c'est la région qui va le prendre en charge. Néanmoins, comme on avait les élections là, courant décembre, la région n'était pas en mesure d'adapter un système. Pour le 1er janvier, il aurait fallu qu'ils se réunissent en session spécifiquement, etc. Donc le préfet a autorisé le département à continuer de subventionner ce tarif insulaire jusqu'à ce que la région prenne la main. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à mener, mais bon, c'est quand même une belle victoire.
Mais c'est acté.
C'est acté. Les évacuations sanitaires, alors ça, là, ça découle d'une directive européenne transposée dans le droit français, qui oblige à avoir un deuxième personnel à bord pour ces évacuations sanitaires, ce qui n'est plus possible avec l'hélico actuel, parce qu'on ne pourrait pas emmener quelqu'un de brancardé si on a un deuxième intervenant à bord. Donc le contrat sur les évacuations sanitaires se terminait normalement fin mars.
Fin mars 2015, on l'appelle.
Fin mars 2015, donc Oya Vandeliko a dénoncé son contrat au 31 décembre, parce que de toute façon, ils n'étaient pas en mesure de faire ces transports à partir du 1er janvier, suivant les nouvelles normes, parce que c'est au 1er janvier. Donc dans un premier temps, de janvier à mars, ce sera les évacuations sanitaires seront sous réquisition du préfet, comme ça s'est fait par le passé, c'est déjà arrivé. Et l'hôpital de Châlons a relancé un nouvel appel d'offres pour à compter du 1er avril. Bon, en ayant bien conscience que de toute façon les réponses des entreprises, y compris Oya Vendée Hélicoptère, seront plus cher que ce qui était par le passé, puisque ça nécessitera un hélicoptère plus grand, un deuxième personnel de bord. Maintenant, l'hôpital de Châlons a des dotations de la part de l'ARS, l'Agence régionale de santé, donc l'État, pour financer ces évacuations sanitaires. Pour le moment, on a encore une incertitude, c'est savoir s'ils vont mettre un complément à la hauteur des dispositions qu'ils ont prises. Donc, à un moment donné, quand on prend des normes au niveau de l'État, même si ça découle du droit européen, il faut aussi s'en donner les moyens derrière. Donc on se battra pour qu'il y ait bien ces moyens financiers pour nos évacuations sanitaires.
Autre sujet chaud, on peut dire sujet chaud, plateforme de réception et valorisation des déchets verts et de gravats à la zone artisanale de la Marèche. Où en est le projet en ce début janvier 2016
Le projet... Bon, je rappelle des éléments de contexte. On a pu utiliser les corbeaux parce qu'il y a une décision du Conseil d'État sur cette question-là. Penser qu'on peut toujours continuer de se battre pour maintenir quelque chose aux corbeaux, c'est pas possible, c'est juridiquement pas possible. Donc on a été tenu de trouver un nouvel endroit. Bon, on avait imaginé au PLU d'autres endroits potentiels. Alors, s'il faut être suffisamment loin des habitations, pas être en zone naturelle, pas être dans des zones de coupure d'urbanisation, le choix était limité, on est retombé sur la zone artisanale, bon, imposée par le préfet certes, mais on n'a pas eu le choix des armes sur cette question-là. Donc maintenant, si on est en zone artisanale, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait le moins de nuisances possible. Alors il y a eu un premier projet de déposer, une réunion publique à la suite de laquelle s'est créée une association de riverains. Ce qui est plutôt,
le Marèche.
Oui, le Marèche, ce qui est plutôt salutaire, j'ai envie de dire, parce que c'est important que les riverains puissent prendre conscience du projet, apporter aussi... leurs questions, leurs revendications, ce qui est tout à fait légitime. Donc sur ce projet, suite à ces discussions, il y a eu des évolutions de la part de Trivalis, donc qui est le syndicat de gestion, enfin de retraitement des déchets, pour adapter un peu plus le projet. Alors par exemple, sur les déchets verts, la mise en compostage, fermentation de ces déchets se feront sous bâtiments fermés avec traitement d'odeur, ce qui n'était pas prévu initialement, donc c'est plutôt positif, avec des systèmes d'atténuation de bruit aussi autour du concasseur à matériaux. Il y a eu une réunion récemment sous préfecture. Bon, je crois qu'aujourd'hui, Trivalis est allé, j'ai envie de dire, au maximum de ce qui est raisonnable de faire, voilà, après, il y aura des impacts. Je pense que les questionnements étaient largement pris en compte pour les diminuer au maximum et faire en sorte que les riverains ne soient pas trop impactés par cette implantation.
La peur surtout des riverains, c'était le bruit.
Il y avait le bruit, il y a la poussière, il y a les odeurs. Les odeurs, je pense que c'est réglé avec le bâtiment couvert, même si je pense pas que ça aurait été un vrai problème. Bon, on avait emmené les riverains aussi sur des plateformes de compostage ailleurs pour montrer que finalement, c'était pas tant le bruit. Alors, pas tant l'odeur. Après, il y a la question de bruit. Alors, il y a le bruit du broyage à végétaux, celui qui va être le plus utilisé, c'est ça. Et ce broyeur sera électrique, donc fera beaucoup moins de bruit que s'il avait été thermique. Donc je pense que de ce côté-là, ça va être gérable. Après, restera le concasseur à matériaux. Bon, on ne sera pas les concasseurs qu'on a l'habitude d'avoir entendu sur l'île, à savoir des concasseurs de carrière. Sera un concasseur adapté à ce type d'activité. Bon, il y a quelques heures de fonctionnement par an. Il faudra voir à quel moment il faut les faire au cours de l'année, à quels horaires. Bon, je pense qu'il faut le faire au maximum les jours de pluie pour éviter la poussière, etc. Voilà où on en est aujourd'hui.
Et la date de début des travaux pour cette plateforme de réception et de valorisation des déchets verts?
La date de début, elle n'est pas complètement arrêtée, puisque on attend le retour de ce modificatif, finir les discussions avec les riverains, mais bon, courant d'année 2016 vraisemblablement.
Les discussions avec les riverains et le marais se passent bien actuellement, ou c'est un petit peu houleux?
Disons que il y a des points durs dans la négociation, hein, ça, il faut pas se le cacher. Maintenant, bon, il y a eu aussi des avancées. Bon, je redis ce que j'ai dit au départ, à savoir que le choix était largement diligenté par la préfecture, donc c'est eux qui mènent cette discussion. Donc on a des réunions en sous-préfecture avec les riverains, les services de l'État, nous-mêmes, Trivalis, pour avancer. Comme j'ai dit, bon, je pense que sur la partie déchets verts, les avancées ont permis aussi d'avoir l'aval des riverains, où le projet est acceptable. Reste sur les gravats, où bon, il y a cette question de concasseurs qui fomentent des inquiétudes qui sont légitimes, mais encore une fois, il y a des systèmes anti-bruit qui ont été rajoutés. Voilà, je pense qu'on est au bout de ce qui est possible, de ce qui est raisonnable de faire.
Pour l'instant, pas de date de début de travaux?
Non, mais courant 2016, je pense.
Et quelles conséquences par rapport à ce retard de début de travaux? Pas grand chose pour l'instant?
Non, pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Disons que il faut laisser le temps à la discussion. Maintenant, le préfet avait mis en demeure de quitter les corbeaux au 31 décembre. Donc, c'est
31 décembre 2015, on rappelle.
Voilà. Donc, c'est un peu râpé. Maintenant, le fait que le projet avance, bon, le préfet va donner délais supplémentaires. Mais il faut que ça avance. Voilà. Donc, on est coincé entre le marteau et l'enclume.
Où en sont les travaux de rénovation de l'hôpital de l'Île-Dieu et des chênes verts?
Alors,
on en a déjà parlé aussi sur cette antenne.
Oui,
c'est pour ça que je vous pose des questions.
Parce qu'on avait le projet de faire un centre de santé couplé à l'hôpital. Bon, on avait un peu abandonné cette idée-là, parce que c'était un projet même s'il était séduisant et qui permettait d'avoir un peu tous les professionnels de santé dans une même structure, on serait arrivé à des coûts de loyer pour ces mêmes professionnels qui auraient été un petit peu prohibitifs. Donc, si on a une belle structure avec personne dedans, c'était pas jouable. Donc, aujourd'hui, on se focalise surtout sur l'extension chêne vert. Donc, ça, c'est un projet qui est porté par Vendée Habitat, puisque c'est lui le propriétaire. Ce projet est en cours. Bon, on a des travaux là d'amélioration de la sécurité
remise aux normes.
Non, pas vraiment, parce que en fait, suite à des problèmes qu'il y avait eu dans des EHPAD par le passé, je sais plus très bien où en France, un peu partout en France, y compris en Vendée, le préfet a changé la catégorie de sécurité des EHPAD. Donc, en changeant de catégorie de sécurité, ça obligeait à mettre des éléments supplémentaires. Enfin, les normes n'étaient pas les mêmes. Donc, ce n'est pas une remise aux normes, c'est une adaptation sur les normes de ce changement de catégorie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de changement de catégorie, il n'y aurait pas eu de changement sur les aspects de sécurité, hein, que les choses soient bien claires. Donc ces travaux sont en cours. Et à l'arrivée, il y a cette extension. Donc aujourd'hui, on a arrêté le projet sur l'avant-projet sommaire. Maintenant, Vendée Habitat doit faire les études plus poussées sur le détail pour faire le dossier de consultation des entreprises et pouvoir entamer les travaux. Je pense à une échéance de 2 ans pour démarrer, quoi.
L'extension commencera d'ici 2 ans, c'est bien ça?
Ouais, peut-être 18 mois, mais il y a encore un peu d'études à faire, de pouvoir faire les appels d'offres et de commencer le chantier.
Parce qu'on rappelle que c'est des marchés publics, tout ça.
Oui.
La fibre optique est arrivée sur l'Île-Dieu. Où est-elle disponible actuellement?
Alors aujourd'hui, elle est arrivée. Alors le projet était un peu complexe puisqu'il a été porté par le contrat de plan État-Région. Donc c'était porté par la région avec un cofinancement du département. Donc la fibre est arrivée aux centrales téléphoniques. Maintenant, la région, dans ses attributions, avait la desserte des lycées, par exemple, des
collèges,
des hôpitaux. Mmh. Non, les collèges sont les départements.
Ok.
Donc, dans cette desserte, en fait, immédiatement, ils ont desservi l'hôpital, qui est un système de visio, là, avec...
visioconférence, ouais, par la fibre. Et ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien. On est allé... Il y a une dizaine de jours avec Jacques Auxiette, voir comment ça fonctionnait.
L'ancien président de région.
Voilà. Je remercie au passage de s'être déplacé et puis de voir aussi un petit peu ces réalisations du CPER, parce que pouvoir amener la fibre à l'hôpital de l'Île-Dieu, c'est aussi du désenclavement. Donc c'était un dossier important pour l'île. Bon, maintenant... Il y a cette fibre à l'hôpital. Sur le central téléphonique, même si elle arrive maintenant, il faut pouvoir relier le central. Donc ça va être fait très rapidement. Ce qui va être fait rapidement aussi, c'est la montée en débit de certains sous-répartiteurs sur l'île. Mmh. Parce qu'en fait, l'autorité de régulation des communications, l'ARCEP, permet... sur des sous-répartiteurs qui ont trop de pertes de débit, de pouvoir faire cette montée en débit. En fait, on ne peut pas monter plus en débit des sous-répartiteurs qui seraient un petit peu dans la norme de l'ARCEP. Par contre, on en a 3 sur l'île qui sont en dessous de cette norme, donc qui vont bénéficier de cette montée en débit dès 2016.
Par exemple, au Corbeau, ils auront plus de débit que maintenant.
Oui, largement, oui. Bah, ça va être, il y a un sous-répartiteur à Saint-Sauveur de mémoire, un à La Meule et un à La Croix. Mm-hmm. C'était les 3 qui étaient en dessous. Donc les gens qui sont concernés vont pouvoir avoir un débit
augmenté,
largement augmenté par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Après,
c'est pour 2016.
En fait, c'est pour 2016. En fait, la
fin 2016.
La fibre qui était servie à l'Île-Dieu. Donc ça a été un montage un peu compliqué via Gigalis, qui est un syndicat mixte de la région, qui était pour c'était la seule structure qui pouvait porter ce déploiement. Cette fibre n'avait pas vocation à rester à la région. En fait, elle va être redonnée au département via une société publique Vendée Numérique, en l'occurrence. Et donc le département, lui, a d'autres enjeux, d'autres attributions que la région, à savoir...
Pour faire simple, d'autres missions.
Oui, d'autres missions, les sites départementaux, à savoir les collèges, il y a la gare, les zones artisanales, que ce soit portuaires ou zones artisanales classiques.
De la Marge, par exemple.
Oui, il y a des sites prioritaires que sont les édifices publics, à savoir mairie, etc. Donc ça va être un peu les endroits publics ou économiques qui vont être desservis en premier. Et après, dans une phase suivante, sera ce qu'on appelle...
Le grand public.
Ouais, le FTTH, le grand public. Donc ça, c'est un déploiement qui prendra plusieurs années parce que, d'une part, ça coûte...
De l'argent.
De l'argent. Et puis d'autre part, bon, il faut mener certaines études, etc. Donc c'est un petit peu complexe.
Autre dossier pour vous, nouvelle discothèque au-dessus du bar Le Corsaire. Quelle est votre position ?
Alors notre position, elle sert pas à grand-chose puisque on n'a pas vraiment droit au chapitre sur cette question. Bon, le Corsaire a demandé à avoir son étage en discothèque. À notre grande dame, parce que nous on le souhaite pas pour plein de raisons. Je pense que ces dernières années sur le port de la vie de tous ceux qui sont dans notre conseil local de sécurité, que ce soit des représentants des commerçants, des forces de l'ordre, les pompiers, services jeunesse et autres, s'accordaient à dire qu'il y avait de l'amélioration. Mmh. Hein, et qu'il y avait vraiment une amélioration. Sur
avec la fermeture des bars, par exemple, à 2h.
Oui, par exemple. Ce qui était plutôt une bonne chose, maintenant avec une discothèque en plein port qui va fermer à 7h du matin, je suis très, très, très inquiet. Alors là-dessus, c'est pas nous qui décidons cette autorisation, c'est une commission départementale de l'État, commission de sécurité. On a donné notre avis. Moi, je j'ai pas caché, je le dis à l'antenne, et j'ai pas caché que je suis assez furieux. J'ai des doutes sur la stabilité et puis sur la construction de ce bâtiment. J'ai vraiment des doutes sur sa capacité à recevoir une discothèque. Donc je m'en suis ouvert, j'ai fait un avis écrit en la matière, un avis écrit aussi en termes de sécurité, parce que quand il y aura fermeture des bars, on va avoir un attroupement à ce niveau-là qu'on ne saura pas forcément gérer. Donc je suis très très inquiet, je m'en suis ouvert aussi bien aux services préfectoraux qu'aux procureurs, etc., qu'on dénonce cette affaire. C'est pas nous qui décidons, encore une fois. Alors je sais pas si la commission départementale avait les billes pour pouvoir refuser, hein, c'est toujours compliqué. On refuse pas parce qu'on a envie de refuser, on refuse par rapport à des règles, et peut-être que dans le dossier les règles étaient claires. Maintenant ça n'empêche pas mon inquiétude. Et j'ai grand peur pour la sécurité au niveau de cet établissement. Pour autant, on n'a pas les moyens de s'y opposer.
Et les services de sécurité vont être renforcés pour cette année 2016 en termes de police municipale, pompiers et gendarmerie ?
Non, ça on va fonctionner à peu près sur le même effectif.
2015-2016, c'est le même effectif.
C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que bon, on avait des présences sur le port qui étaient adaptées en fonction des horaires d'ouverture des établissements. Là, ça va largement changer la donne et risque d'accaparer un peu plus d'heures, que ce soit des gendarmes, des pompiers ou de la police municipale. Donc, nous, il va falloir qu'on s'organise en fonction, ce qui ne nous fait pas plaisir, vous le pensez bien. Et j'espère qu'on n'aura pas à avoir à mettre des moyens supplémentaires pour gérer cette discothèque en plein port, ce qui nous inquiète vraiment fortement.
Dans cet état de fait, pourquoi ne pas réouvrir les bars jusqu'à 3h du matin ?
Parce que c'est une disposition nationale et c'est pas nous qui décidons de ça.
Sylvie Grock, la nouvelle bibliothèque sur l'île-Dieu à l'école du Ponant fonctionne bien actuellement ?
Ah, on est très content parce que...
Rouverture depuis 2015.
Oui, depuis septembre 2015. Et nous avons déjà plus de 350 abonnés. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un succès. On n'a pas encore touché une période très touristique. Donc, on va avoir encore des abonnés supplémentaires. Voilà, on s'était donné comme but... pour cette année 2000, pour l'année 2015, on s'était dit si on a 200 adhérents, ce sera formidable. On en a 350, donc on est très content. Et puis c'est pas fini.
Bruno, Ou Sylvie, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir?
Oui, on a d'autres chantiers en cours qu'on n'a pas parlé. Je pense au centre technique municipal.
Mm-hmm. Toujours à la zone artisanale.
Toujours à la zone artisanale. Donc c'est un gros dossier. Néanmoins, aujourd'hui, nos services techniques sont un peu éclatés sur le territoire de Lille parce que du fait de l'incendie au Corsaire. Donc ce projet est encore à l'étude. Hein. Pour le moment, on va bientôt arriver à la phase du permis de construire. Il faut on a encore des incertitudes, donc il faut qu'on continue de travailler dessus. Mais on a hâte de pouvoir avoir un équipement qui permette à nos services techniques de fonctionner au mieux pour le bien de tous, pour le bien de Lille. Donc c'est un souhait pour 2016, même s'il ne sera pas fini en 2016. Je pense qu'on posera quand même les premiers parpaings de 2016. Enfin, le parpaing sera plutôt du bardage, mais...
Voilà. Sylvie, quelque chose à rajouter avant de dire au revoir?
Oui, moi je voudrais dire qu'on va continuer dans la mesure de nos possibilités financières et autres d'améliorer les salles de la Citadelle pour les associations à qui on doit beaucoup, comme je l'ai dit au début de cette émission. Donc après la salle des chorales que nous avons entièrement refaite avec les services techniques de la mairie, on continuera à améliorer les salles. On continuera aussi à essayer de distraire les Illets avec un spectacle mensuel.
Au casino,
où on applaudira Molière, du flamenco, enfin c'est très éclectique.
Un magicien qui débarque au mois d'avril 2016.
De la magie, et au mois de septembre, on aura un spectacle qui se déroule actuellement à Paris, avec un artiste assez connu, c'est Christophe Alévèque, qui a travaillé beaucoup avec Ruquier, et voilà, et il a accepté de venir à Lille-Dieu faire son spectacle, qui s'appelle « Ça ira mieux demain ». Donc, je pense que c'est de bon augure.
Bruno Nourry, on le rappelle, vous êtes maire de Lille-Dieu et conseiller départemental. À très bientôt.
À très bientôt et une très bonne année à tous. Tous mes vœux de bonheur et que Lille-Dieu se porte bien et aille de l'avant, c'est le principal.
Sylvie Grock, vous êtes première adjointe en charge de la vie culturelle à la mairie de Lille-Dieu. À très bientôt.
À bientôt.
La mairie vous répond, le nouveau rendez-vous des élus de Lille-Dieu. Réagissez, posez vos questions et réécoutez l'émission sur neptunefm.com.